Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonsoir. Il existe un risque extrêmement fort pour que l'objectif de réduction du déficit public prévu à 2,8% cette année soit dépassé. Alors, une fois que le Premier ministre a dit ça, affirme ça, qu'est-ce qui se passe justement? Oui, toute une série de mesures pourraient être prises, envisagées, explique Édouard Philippe. Lesquelles? Bon, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que le président de la République pourrait revenir sur un certain nombre de ses promesses? Est-ce qu'on pourrait renier ça et là sur certaines choses en 2017? Tiens, est-ce que Macron est en train de nous préparer un tour de vis? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Et pour nous accompagner, voici François Eckhall à la tête de son site d'information spécialisé dans les finances publiques, Fipeco. Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors. Oui, on verra justement bien quelle sera l'attitude de Bruxelles vis-à-vis de ce déficit donc que va devoir gérer Emmanuel Macron. L'économiste Marc de Citivaux, fondateur des Cahiers Verts de l'économie. Véronique Jérôme, polito-économiste qui a signé La victoire électorale ne se décrète pas. Et puis Mathieu Jolivet, reporter à BFM Business. Alors, dérapage ou pas? Tiens, déjà, François Eckhall, dites-nous, hein, justement. Donc, sur France Info ce matin, le Premier ministre explique qu'il existe un risque extrêmement fort pour que l'objectif de réduction du déficit public à 2,8% soit dépassé, objectif prévu en 2017. Vrai, faux? De quel ordre y a-t-il dérapage?
J'espère qu'il n'a pas découvert le sujet, parce que ça voudrait dire qu'il
n'est
pas très, très bien préparé à cette fonction.
Ah, il l'a dit lui-même. J'avais des doutes, là, cette fois, une fois qu'il était à Matignon, les doutes se sont confirmés. Bah,
hein. En septembre dernier, le gouvernement avait présenté un projet pour 2017 avec un déficit de 2,7% du PIB à l'époque, et le Haut Conseil des Finances Publiques avait considéré que c'était improbable. Bien. Donc, le Haut Conseil n'a pas dit quelle était sa propre prévision, mais bon, il y avait tout lieu de penser que c'était de l'ordre de 3,1 ou 3,2. Puis ensuite, en avril dernier, le précédent gouvernement a présenté à Bruxelles un programme de stabilité avec un déficit un petit peu remonté à 2,8, en effet, c'est le nouvel objectif, mais tout en disant qu'il avait intégré 3-4 milliards de dépenses forfaitaires, qu'il reviendrait à son successeur le soin de concrétiser. Voilà. Donc on sait très bien depuis déjà pas mal de temps que le déficit 2017, il est plutôt de 3,1, 3,2. Et par ailleurs, on sait aussi que le plus difficile, c'est peut-être 2018. Ça, le Haut Conseil l'a dit aussi. Mais pour 2018, c'est pareil. À politique inchangée, enfin, le legs du gouvernement précédent, c'est plutôt aussi un déficit de 3,1, 3,2% du PIB.
Comme la Commission européenne le dit elle-même.
Comme la Commission européenne le dit elle-même, parce que le gouvernement précédent a pris un certain nombre de mesures fiscales, en termes notamment des crédits d'impôt, qui vont monter en charge progressivement et qui auront un effet sur le déficit seulement en 2018. Voilà, donc ce sujet, on le connaît depuis très longtemps. On sait qu'il y a quelques milliards à essayer de récupérer. C'est pas un tour de vis comme celui qu'on a eu. On n'est pas dans la situation de 2012. C'est quand même un peu plus facile.
On verra quelles sont les mesures. Oui, dites donc, Mathieu Jolivet, oui, c'est un grand classique de la vie budgétaire, hein, oui. Quelque part, en période électorale, que l'ancienne
tout
équipe.
À fait. Exactement. Et d'ailleurs, Édouard Philippe s'y était préparé. Hein, ce grand classique, c'est quoi? C'est à chaque fin de mandat, vous avez les gouvernements qui mettent sous le tapis des dépenses nouvelles. Et qui ça leur permet en fait d'afficher un bilan comptable qui est beaucoup plus présentable, et en fait ils redonnent la patate chaude à leur successeur.
Le point d'indice de la hausse du traitement des
exactement,
fonctionnaires.
Exactement, il y avait eu un geste pouvoir d'achat pour les fonctionnaires en fin de mandat de François Hollande, ouais. Dont l'effet massif au niveau des finances publiques se fait ressentir quand? En 2017, il y avait eu aussi une ligne budgétaire 2 milliards pris sur la dette de la France qui ont servi en fait par un tour de passe-passe comptable à réduire le déficit en 2016. En fait, c'est un tour de passe-passe artificiel qui se répercute en plus sur le déficit suivant. Donc en fait, c'est 2 milliards en plus que doit gérer le gouvernement aujourd'hui. C'est pour ça qu'Edouard Philippe ne se fait pas d'illusions. Il a commandé un audit de la Cour des comptes qui sera rendu là entre le 1er et le 3 juillet, mais il sait d'ores et déjà qu'il va avoir plusieurs milliards d'euros à trouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il prépare les esprits avant d'avancer plusieurs pistes d'économie.
Ça veut dire quoi, Marc de Citivo, que Macron va devoir gérer le passif de Hollande, les engagements de Hollande ?
Non, mais même en dehors du passif de Hollande, qu'on connaît tous, et ça a été rappelé, je crois que, si vous voulez, on a eu un drame, en fait, dans cette campagne électorale. Il s'est fait que, à cause des malheurs qu'a eu François Fillon, d'un seul coup a été occulté un débat qui avait commencé comme devant être le centre, qui était la diminution des dépenses publiques, le retour à un équilibre budgétaire et autres. Et ce débat n'a pas eu lieu. Et il n'a toujours pas lieu, d'ailleurs, parce que là, nous parlons tous du problème du déficit. Mais honnêtement, ce qui est les choses les plus frappantes quand vous regardez la situation de la France par rapport au reste de l'Europe, j'ai là sous les yeux 57% de dépenses publiques par rapport au PIB contre une moyenne européenne de 47% et 40% chez nos amis allemands. Et le fait que, comment voulez-vous revenir à des équilibres budgétaires quand d'ores et déjà nous avons augmenté les prélèvements sur les 5 dernières années de 4 points alors que tous les autres pays les baissaient? Donc nous n'avons pas de marge de manœuvre, ou bien il faut réduire les dépenses publiques de manière importante, ce qui était le programme Fillon, mais dont nous n'avons pas eu un mot dans le programme de Macron. Je n'ai pas vu une seule proposition de baisse importante de dépenses publiques. Ou bien il faut...
Et alors là, 120 000 fonctionnaires en moins sur le quinquennat.
Oui, ce qui est donc peanuts. Non, je suis même pas sûr que les 500 000 suffisaient.
60 milliards d'euros d'économie, c'est à peu près le même niveau qu'a fait François Hollande sous son quinquennat.
Oui, ce qui est donc très rassurant. Et ce que je veux dire, c'est que vous avez non plus pas tellement de possibilités d'augmentation d'impôts. Donc, on a absolument occulté ce problème. Et je voulais dire que je trouve qu'on vient d'avoir un numéro de bonneto absolument formidable. Vous savez tous que quand on va voir des prestidigitateurs, ils ont l'habitude de vous montrer une main et en fait ils font quelque chose avec l'autre. On a agité une main qui est la réforme du droit du travail. Ce qui...
Essentiel quand même.
Ce qui est absolument essentiel. Mais bien évidemment, en faisant ça, vous réjouissez énormément de gens et entre autres les chefs d'entreprise. Mais ça vous permet de faire complètement oublier que ne vous êtes absolument pas attaqué à un autre problème qui est très très important, que les excès des dépenses publiques. Alors les chefs d'entreprise s'en foutent, à vrai dire. C'est vrai que l'excès des dépenses publiques s'en foutent complètement. Le droit du travail, pour eux, c'est très important. Le déficit budgétaire, la dette, patati patata, c'est les générations futures qui paieront. Et donc, je suis extrêmement frappé de voir que nous, aujourd'hui, on a l'air de redécouvrir ce qui, normalement, aurait dû être le cœur du débat de la présidentielle, mais qui, à cause des affaires de Fillon, n'a pas eu lieu.
On va y revenir, justement, sur les mesures. Simplement, on continue, là, puisqu'on est toujours sur ce dérapage, en effet, qui n'est pas vraiment une surprise, hein, et pour tout le monde, et notamment dans la tête d'Edouard Philippe. Quand même, vu d'Europe, ou François Eckel, ou Véronique Jean-Baptiste, Yves Bertoncini, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est encore une question majeure quand même? C'est là-dessus qu'on est très attendu ou pas, les Français, sur la question de ce déficit?
C'est une question symboliquement importante. Ça fait 10 ans que la France est en dessus de 3%. 10 ans. Sur 20 ans, puisque le pacte de stabilité et de croissance, c'est 97, hein, traité d'Amsterdam, sur 20 ans, seulement 7 fois en dessous. 13 fois en dessus. Ce qui d'ailleurs signale au passage que c'est tout sauf un dogme, hein, le pacte de stabilité et de croissance. C'est extrêmement flexible. Puisqu'il n'y a jamais eu de sanctions, ni des partenaires politiques de la France, ni, c'est bien plus important d'ailleurs, des marchés financiers. Alors, qu'est-ce que les Européens regardent? Ils voient un président de la République élu assez largement, avec sans doute une majorité extrêmement large également à l'Assemblée nationale. Et un agenda de réforme qui n'est peut-être pas détaillé, mais qui est assez clair, et y compris s'agissant des réformes structurelles, et notamment celles du marché du travail. Les Européens, donc, sont plutôt...
Applaudissent.
Agréablement surpris. Ouais. Maintenant, ils attendent des actes. La réforme du marché du travail en fait partie, ce n'est pas la seule. Mais c'est vrai que sur cette question urticante des 3%, ouais, la France a déjà largement épuisé son crédit. Alors, Emmanuel Macron a deux façons d'adresser ce sujet, soit avec l'esprit comptable, soit avec l'esprit de conquête. S'il l'adresse avec l'esprit de conquête, il dira, mais on est la France, naturellement qu'on va y arriver. On va quand même pas être les seuls à pas pouvoir être en dessous des 3%, parce que l'an prochain, on serait vraiment les seuls. On va régler ça, et puis après, Bruxelles, Berlin, nous foutrons la paix, les marchés financiers aussi, par ailleurs. La tentation, c'est parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, c'est d'utiliser des artifices comptables et de dire que peut-être, on pourrait peut-être y arriver, mais avec l'indulgence du jury. Je crois que le jury est un peu à bout de patience et que Emmanuel Macron dépenserait un peu de son capital politique à mauvais escient s'il essayait de biaiser avec cette réalité-là, c'est-à-dire que la France doit arriver en dessous des 3% en 2017, mais également en 2018.
Tendre vers les 3% ou parvenir aux 3%, voilà, c'est toute la différence. On verra comment l'Union européenne, eh bien, va trancher. Simplement, oui, François Eckhall, Véronique Jérôme, Yves Bertoncini nous disait, c'est une question symboliquement importante, hein, cette question aux yeux des Européens. Et pour nous, clairement, c'est un enjeu majeur, c'est une question majeure, justement.
Ah, mais c'est pas seulement une question européenne, en effet, parce que indépendamment de toutes nos obligations, de tous nos engagements au titre de l'Union européenne, c'est aussi un impératif strictement national. Nous avons une dette publique qui continue à augmenter. Alors, on ne sait pas jusqu'à où elle peut augmenter.
2,8, 2,9, 3, c'est grave ou pas ?
Oui,
d'accord.
Parce que là, c'est grave, parce qu'à 2,8, 2,9 ou 2,7, la dette publique continue à augmenter. Elle va bientôt, on est proche des 100%. Alors, il se passera rien si on franchit le seuil de 100%, les marchés ne diront rien. Mais il y a un moment, si notre dette publique continue à augmenter, où il va se passer quelque chose, où les marchés vont commencer à s'inquiéter, etc. Donc, il ne faut pas prendre ce risque. Et si jamais une nouvelle crise arrive, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre. Donc, il faut réduire ce déficit public pour réduire la dette publique et ne plus prendre de risques.
Véronique Jérôme, Élections Scope.
Je suis tout à fait d'accord et j'adhère à ce que vous dites, d'autant que l'alignement des planètes semble commencer à s'inverser. Les conditions favorables d'emprunt ne seront plus aussi favorables à l'avenir et donc le financement de la dette sera encore plus compliqué. Néanmoins, il y a quand même une situation paradoxale ici au sens où Emmanuel Macron ne pourra pas dire ce qu'a dit François Hollande, mais il va peut-être tenter parce que finalement, en Europe, on a tendance à dire à l'Europe, ce sont nos déficits, mais c'est votre problème. Parce qu'on est too big to fail, on est trop gros pour tomber et que finalement, on sait très bien que la France plus l'Allemagne, ça fait pratiquement 40% du PIB européen. Donc, on ne peut pas faire sans la France. Donc, c'est un peu à ce petit jeu qu'avait joué François Hollande. Sauf que maintenant, on ne peut pas réitérer comme ça à l'envi ce genre de situation. Emmanuel Macron a besoin d'être crédible. Il a besoin d'être crédible à l'extérieur et à l'intérieur. D'autant que Angela Merkel vient de le féliciter en disant bravo pour cette élection. Et donc, bravo pour cette élection. Vous êtes bien élu. Donc, j'attends de vous qu'avec un tel soutien politique qui va se confirmer certainement au deuxième tour des législatives, vous soyez en mesure, vous n'ayez plus aucun prétexte pour ne pas mettre en place des réformes. Donc, il est engagé, il a, me semble-t-il quand même, alors peut-être un peu moins forcément que d'autres candidats, mais il a semblé donner une envie, il a une intention de réforme qui semble sincère. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu ici, là où ce sera peut-être compliqué, c'est qu'il y a en France, les Espagnols ont dit de façon un peu comme ça triviale, que le gouvernement français est un gouvernement paella. Moi, j'ai l'impression qu'on a l'auberge espagnole des candidats dans Marche, c'est un peu ça. Il y a cet aspect, en n'étant ni de droite ni de gauche, on a quand même
et
la gauche, et on va avoir deux tendances qui peuvent finalement s'opposer plus ou moins fortement selon la structure qu'il y aura dans notamment à l'Assemblée nationale, mais entre les tenants d'une politique, je dirais entre guillemets de droite, celle dont serait issu le Premier ministre qui a réaffirmé qu'il était de droite pour la rigueur, et le ministre de l'économie, et puis d'autres éléments au sein du gouvernement et de l'Assemblée aussi qui pourraient être dans cette tendance qui est de dire la rigueur, on l'a assez vu, on peut abandonner un peu la rigueur. Il n'y a pas que le déficit. On entend un peu dire ça aujourd'hui.
Un mot, Yves Bertoncini, puis juste après Marc de Citivo.
Oui, je crois qu'il faut vraiment nationaliser ce sujet. Bruno Le Maire l'avait fait à Berlin en disant nous allons revenir sur les 3%, mais pas parce que les Allemands nous le demandent ou Bruxelles nous le demande, parce que c'est l'intérêt de la France de le faire et que 10 ans de déficit excessif ne nous ont rien apporté, au-delà d'évidemment quelques amortissements, stabilisations conjoncturelles en temps de crise. Donc, il faut le faire d'abord pour nous. Pourquoi on pourrait se priver de le faire sans que ça nous coûte ? Parce qu'effectivement, la France est un grand pays et que les marchés financiers ne la sanctionneront peut-être pas. Sauf que Emmanuel Macron n'a pas qu'un agenda défensif sur les sujets européens. Il a un agenda ambitieux.
De réforme.
Par exemple, créer un budget pour la zone euro. Et puis aussi un ministre des Finances, un parlement de la zone euro. Moi, je crois qu'il a raison de vouloir faire
mais
ça. Sauf qu'il n'aura aucun crédit pour pouvoir le faire.
Si.
Pour vouloir réformer les règles du village européen, s'il n'a pas un tout petit peu mis sa maison en ordre. Je crois d'ailleurs qu'il en est très conscient.
L'Allemagne acceptera de réformer la zone euro si, en face, elle
naturellement
fait des réformes. Marc de Citivo.
Déjà, je reviendrai sur la sur ce que vous avez dit, qui est dit, en fin de compte, ce déficit n'a servi à rien. Si, ça a servi aux politiques à faire des cadeaux électoraux auxquels ils pensaient que ça leur permettrait d'être élus. Si vous faites la liste, dans les 10 dernières années, de ce qui a été permis par des taux d'intérêt à 0%, c'est-à-dire l'ensemble des cadeaux sociaux qui ont pu être faits, complètement gratuitement, c'est tout à fait terrifiant. Peut-on revenir dessus ? Voici une question majeure. C'est-à-dire que je ne crois pas personnellement que vous puissiez rétablir les finances publiques sans revenir sur un certain nombre de cadeaux qui ont été faits, ce d'autant plus qu'en effet, la probabilité, même si ça s'étale dans le temps, de voir un coût de la dette qui augmente, parce que il faut avouer qu'on a eu cette chose ahurissante, une dette qui triple avec un coût de la dette qui baisse. Ouais. C'est-à-dire, c'est derrière nous. Donc, il ne faut pas croire que les années vont être faciles, et il ne faut pas croire que réduire le déficit va être facile socialement. Or, mais là, c'est vous qui êtes plus une spécialiste, justement, je suis assez inquiet des élections dans lesquelles ne sont pas représentés des gens à qui vous allez demander, sans doute, d'être obligés de faire des efforts non négligeables pour revenir à des équipes budgétaires, alors qu'on leur a absolument caché ce fait pendant la campagne électorale.
Alors, justement, qu'est-ce qu'il a promis, Emmanuel Macron, sur quoi il pourrait revenir ou pas?
En fait, Emmanuel Macron, promis, son engagement et sa promesse, c'est de ramener ce déficit sous la barre des 3%. Donc ça, il compte s'y tenir. En revanche, il est très soucieux de ne pas faire baisser trop vite ce déficit, parce qu'il ne veut pas abîmer une reprise qu'il juge encore peut-être un petit peu fragile, mais qui est là, et on en parle tous les jours sur BFM Business, dont les fondamentaux deviennent de plus en plus solides. Et il a quand même toujours en tête, parce qu'il était d'ailleurs aux premières loges à l'époque, ce qui s'est passé à l'été 2012. Qu'est-ce qu'il y a eu ? François Hollande venait d'être élu, et en plein mois de juillet, il convoque, à l'époque, contexte totalement différent, pression énorme des marchés financiers, un collectif budgétaire dans lequel il acte une hausse d'impôts de plus de 7 milliards d'euros et un gel des crédits d'1,5 milliard. Et là, je pense que ça a été le début d'un des grands drames du quinquennat de François Hollande, qui a été une confiance totalement abîmée par ce choc fiscal. Donc là-dessus, c'est juste pour vous dire que Emmanuel Macron a en tête cet objectif de ramener sous les 3%, parce que, et vous le rappeliez, il y a une sorte de pacte tacite entre lui et Angela Merkel pour réformer la zone euro. En revanche, on y va en pente douce pour laisser la croissance se développer.
Alors, on y va en pente douce. Alors, de quelle manière ? Alors, François Eckel, il faut nous expliquer. Donc, Emmanuel Macron, il avait dit avant son élection, il ne ferait pas de collectif budgétaire, donc, à l'été. Pourquoi est-ce qu'on en ferait ? Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas, justement ? Ça fonctionne comment, alors ?
Un collectif budgétaire peut vous aider à annuler un certain nombre de dépenses. Hein, voilà. C'est pas obligé, parce que la direction du budget, le ministère du budget, a des moyens de geler les crédits, on appelle ça comme ça, on les gèle, c'est-à-dire on dit au ministère, vous aviez des crédits pour cette année, vous les dépenserez pas. Voilà. Et on a les moyens de faire en sorte qu'ils ne les dépensent pas. Donc un collectif budgétaire n'est pas totalement nécessaire. Il en faudra un, il y en aura toujours un, il y en a toujours eu un à la fin d'année, mais on peut imaginer redéployer les dépenses à la fin d'année. Après, un collectif budgétaire était nécessaire en 2012 parce que le problème était beaucoup plus important et on a essayé de le régler, en effet, par les impôts. Donc un collectif budgétaire est nécessaire pour prendre des mesures fiscales, en revanche. Donc ce qui a été fait en 2012, on a pris des mesures fiscales avec un impact immédiat dès 2012. On a avancé les acomptes d'impôts sur les sociétés, des choses comme ça. Pour ça, il faut un collectif budgétaire.
En fait, il y a un principe légal qui est à partir du moment où on touche à 1 euro de recette, les députés des finances publiques, on est obligé de passer par une loi de finances, donc par un collectif. Et c'est aussi pour ça, et j'en parlais avec Matignon aujourd'hui, c'est aussi pour ça que Matignon, même psychologiquement, ne veut pas invoquer ou convoquer un collectif budgétaire dès l'été 2017 pour ne pas envoyer un signal comme quoi peut-être il y aurait le levier fiscal qui serait actionné.
Darmanin, il a dit, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est le ministre des Comptes Publics.
C'est clair, cette option, elle est totalement fermée.
Alors, si elle est fermée, si on touche pas aux impôts, on touche à quoi exactement, de quelle manière? Alors qui prend la parole? Allez-y, François, continuez, François Eckel.
Ce qu'ils vont essayer de faire, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs l'an dernier, c'est en effet, par des mécanismes, en gelant les crédits, en les bloquant, etc., arriver à faire en sorte que l'État dépense un petit peu moins que ce qui a été prévu. Mais d'une part, On ne peut jouer que sur l'État en faisant ça. On ne joue pas sur les dépenses de la sécurité sociale
ou des collectivités
locales, etc. Et on ne peut le faire que de manière relativement limitée. Ça va obliger probablement à faire ce que le gouvernement a fait à la fin de l'année précédente, ce que la Cour des comptes a fortement critiqué, c'est-à-dire qu'on a fait un peu de cavalerie budgétaire, c'est-à-dire qu'il y a des dépenses qu'on devait payer en 2016, on les a reportées en 2017. Voilà. Bon, bah, je pense que malheureusement, si on se contente en effet d'un collectif de fin d'année, on va être obligé de faire la même chose. Et donc, on ne rompra pas avec ses mauvaises habitudes, en espérant qu'on fera mieux en 2018.
C'est quoi la panoplie? Marc de Citivo, Yves Bertoncini, Véronique Jérôme.
Il n'y a pas de panoplie.
Comment?
Non, il n'y a pas de panoplie. Non, si vous voulez, on peut, vous connaissez le célèbre aphorisme de Bastiat sur le gradualisme.
Non, je ne connais pas, mais...
Ah bah oui, mon petit chien, il faut qu'on te coupe la queue, comme ça va être douloureux, on va en faire un petit bout tous les jours. Voilà, alors, je crois qu'il n'y a pas de panoplie. Nous avons abusé de la dépense publique pendant 20 ans. Nous avons été aidés énormément par le fait que les marchés, en effet, ont cru qu'on était des Allemands, comme ils avaient cru que les Grecs étaient des Allemands, jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que c'était pas tout à fait vrai. Bon, mais c'est vrai, too big to fail, tout ça est vrai, l'Europe patati patata. Les taux d'intérêt mondiaux ont permis tout ça. La fin de la récréation commence à être sonnée. Il n'y a pas de solution autre que la souffrance. Personne ne veut l'entendre et personne ne veut le dire. Bon, c'est...
Donc voilà. La souffrance qui concerne quoi alors?
La souffrance concerne tout. Il est évident que c'est pas 100 000 fonctionnaires qu'il faut supprimer. C'est évident qu'il faudra une réforme dure des retraites. C'est évident qu'il faudra une réforme dure des dépenses médicales. C'est dans tous les domaines, tout ce qui a été distribué, c'est ce que Jacques Rueff appelle les faux droits. Vous avez distribué à la population des faux droits qui n'étaient pas gagés par des gains de productivité ou des gains de salaire. Il va falloir les reprendre. Eh bien, c'est très, très, très douloureux. Voilà.
On verra dans un instant les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron. Yves Bertoncini, à la tête de l'Institut Jacques Delors.
Non, mais je crois que la France restera, malgré tout, l'un des pays européens avec un taux de dépenses publiques important par rapport à sa richesse. On est presque premier avec la Finlande. Ça fait partie de l'identité de la France. L'État est fort. Voilà. Donc, on aura difficilement un pays qui arrivera au niveau de l'Allemagne, qui a quand même 10 points de PIB en moins par rapport à la France. Ceci dit, il faut rendre ce niveau peut-être un peu moindre et surtout le mettre sous contrôle, parce que là, il y a une dynamique des déficits, une dynamique de la dette aussi, qui effectivement atteint les 100% désormais. Donc, vu de Bruxelles et vu d'Europe, la France ne va jamais devenir le Royaume-Uni, mais le souhait, c'est que la France se réforme, se redresse de ce point de vue-là. Emmanuel Macron trouve quand même un héritage meilleur que celui qu'avait trouvé François Hollande à son arrivée. Il y a une trajectoire, on lui demande pas un coup de marteau là pour aller sous les 3%. C'est juste un petit coup de vis, oui.
Il manque, juste, j'ouvre une parenthèse, il manque combien là pour arriver aux 3%? Quelqu'un me dit. Les échos parlaient de 4 à 5 milliards, oui.
Voilà, parler de souffrance expiatoire, ce qui plairait peut-être à Wolfgang Schäuble et à nos camarades allemands. Mais pour nos partenaires européens, il faut pas regarder que les Allemands, hein. Les Néerlandais, tous les autres qui ont vu quelle mansuétude la France a déjà pu obtenir de Bruxelles. Il faut un petit coup de rein, voilà, un petit coup de rein en 2017 pour rester dans les clous. Et puis, en 2018,
il y a quelque chose en douceur, comme le disait
Mathieu. Quelque chose qui est encore ajustable, mais Emmanuel Macron a dit qu'il voulait faire baisser l'impôt sur les sociétés à 25, et en réalité, en reprenant le crédit d'impôt sur compétitivité. Et là, s'il le fait, ça pourrait avoir des conséquences négatives sur le déficit 2018, qui pour l'instant est au-dessus de 3%. Mais là, il aurait un peu plus de temps pour régler les choses, présenter son premier vrai budget. Et donc, encore une fois, se défaire de ce sparadrap du capitaine Haddock. La meilleure chose à faire, c'est de rentrer dans les clous pour qu'ensuite Bruxelles-Berlin nous foute un petit peu la paix et que Emmanuel Macron fasse des réformes profondes en France. Et puis surtout, s'engage sur des horizons un peu plus mobilisateurs que celui de satané respect des 3%, qui est complètement urticant et qui pollue toutes les discussions sur le futur de la zone euro.
Véronique, Jérôme.
Je voudrais pas oublier quelque chose, c'est finalement la solution elle serait simple, c'est d'avoir plus de croissance. Sauf que la croissance ne se décrète pas. Et donc il faut ramener les éléments propices à faire croître le PIB et à le faire croître de façon conséquente. Ce qui peut aider à la croissance, à redoper la croissance, c'est déjà l'élection qui rassure les décideurs économiques notamment, qui leur donne des perspectives, qui les incite à embaucher, ouais, investir, etc. Et là, la mécanique pourrait se mettre en œuvre. Maintenant, il y a aussi sur les programmes, il y a aussi des éléments. La question se pose de savoir, est-ce qu'on essaie, pour diminuer les impôts, de diminuer la dépense et d'avoir une vision assez libérale des choses, ou est-ce qu'on continue sur la lancée et auquel cas ça va être difficile à gérer. Le rythme de la dépense publique est difficile à tenir à long terme. Et puis en même temps, je crois que Darmanin, son prénom m'échappe,
Gérald
Darmanin, pardon, a pris un très gros risque et il nous refait presque du Hollande l'inversion du chômage, l'inversion de la courbe du chômage. Là, with my lips, no more taxes, plus d'impôts, pas de baisse d'impôts, pas de hausse d'impôts.
Oui,
mais on entend pas de baisse d'impôts. D'ailleurs, mon lapsus est révélateur parce qu'aujourd'hui, si les électeurs sont dans le dégagisme, si les électeurs ont compris qu'on leur mentait, qu'on leur racontait un peu n'importe quoi et ont demandé du nouveau, eh bien, il faut que ce renouveau passe aussi par l'économie. Et il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'on va refaire ce qu'a fait François Hollande d'ailleurs, parce qu'on l'a mesuré sur les écarts entre les prévisions et les annonces sur le déficit. On surestime, et en France, on surestime la croissance pour sous-estimer le déficit. Et ça, il ne faut pas nous refaire ce jeu.
Bon, est-ce que Macron nous prépare un tour de vis ? On revient vite avec nos décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business à la télé et à la radio. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Bon, c'est le Premier ministre qui le disait lui-même ce matin sur France Info, Édouard Philippe. Il existe un risque extrêmement fort pour que l'objectif de réduction du déficit public prévu à 2,8% cette année soit dépassé. Bon, alors, je cite toujours le Premier ministre, une fois qu'on aura le panorama complet, la Cour des comptes notamment, son audit, le 3 juillet, début juillet en tout cas, panorama complet, stabilisé de la situation budgétaire, il faudra qu'on regarde comment on passe la fin de l'année. Bercy se dit déterminé à tenir le cap des 3%. Mathieu Jolivet, on a entendu tout à l'heure l'économiste Marc de Citivaux, toujours avec nous, qui nous promettait, nous prédisait quelque part, un passage obligé de la souffrance, donc justement. C'est quoi les marges de manœuvre d'Emmanuel Macron, justement ? Tour de vis ou pas ? Reniement d'un certain nombre de ses promesses ?
Non, justement, en fait, il ne veut pas renier ses promesses, et c'est pour ça que ces quelques milliards, on parle de quelques milliards, c'est pas non plus énorme à l'échelle des finances publiques de la France, voilà. Et c'est justement pour ne pas renier ses promesses qu'il va utiliser le levier du gel des crédits des ministères, c'est-à-dire qu'il va faire des économies sur les dépenses de l'État et demander quelques milliards saupoudrés sur une dizaine de ministères, ce sera gérable.
Et les ministres sont déjà prévenus ou pas ?
Et justement, ouais. Quelque part, en fait, cette affaire des 4 ou 5 milliards, elle tombe bien pour Emmanuel Macron. C'est un bon moyen pour lui de s'appuyer sur des nouvelles règles de gestion qu'il veut mettre en place dans les ministères. Et c'est pas pour rien et c'est pas un hasard si la semaine dernière, il a envoyé avec Édouard Philippe une lettre de cadrage à tous les ministres, où en fait il ne parle pas encore de chiffres, mais c'est une sorte de discours de la méthode où il leur explique dorénavant comment est-ce qu'on va gérer une trajectoire budgétaire ministère par ministère. Et il leur explique qu'à partir de cet automne, chacun va savoir exactement ce qu'on va lui demander pour le budget 2018 et aussi quelle va être la trajectoire qu'il devra respecter sur les 5 ans à venir.
Ah,
sur les 5 ans à venir.
Le quinquennat.
Et il veut aussi une trajectoire quinquennale. Et il veut derrière instaurer une culture du résultat. En gros, il est en train de dire à ses ministres, je ne veux plus qu'on sorte de cette culture budgétaire où chaque année, c'est le même schéma, le même sketch, où il y a un bras de fer continu entre chaque ministre qui se tirent la bourre entre eux et qui font la queue devant le bureau du ministre du budget pour essayer de dégager le plus de crédit possible. Là, il dit, je ne veux plus de ce bras de fer. Et désormais, chacun va devoir démontrer régulièrement qu'il arrive à tenir son objectif d'économie. Ça, c'est la nouvelle culture qu'il veut. Et ça tombe aussi assez bien parce que vous savez, il y a un autre sujet qu'on évoquait, que Emmanuel Macron évoquait aussi en fin de campagne, qui était celui du modèle des spoil systems qui existent dans les
systèmes anglo-saxons aux États-Unis.
C'est quoi la plus grande difficulté quand on demande à un ministère de faire des sacrifices?
Il y a la politique du spoil system, c'est-à-dire que quand il y a une alternance,
Quand on demande des gels de crédit à un ministère, la première difficulté, elle vient du ministre et de son cabinet. Et la deuxième difficulté, qui n'est pas des moindres, elle vient des directeurs d'administration. Mmh. L'avantage qui du système, c'est que les directeurs d'administration sont nouveaux, sont remplacés et deviennent Macron compatibles et ne s'opposeraient pas à ces gels de crédit. Donc, si vous voulez, derrière, il y a aussi toute une mécanique de nouvelle gestion qu'Emmanuel Macron veut mettre sur les rails à travers ce sujet.
François Eckhall à la tête du site d'information financière Fipeco. Bonne annonce, bonne méthode du nouveau couple exécutif ou pas?
Oui,
cet objectif quinquennal, cet objectif de finalement que les directeurs d'administration soient remplacés pour être plus malléable quelque part.
C'est une bonne méthode puisque quelque part il veut que les ministres et en dessous les responsables de programmes budgétaires soient responsables. On leur dit vous avez tel crédit sur les trois années qui viennent, vous serez jugé sur les résultats. Le problème, ça c'était déjà l'ambition de la loi organique relative aux lois de finances qui date de 2001. Donc ça fait déjà 15 ans qu'on parle de ça et qu'on dit qu'on va le faire, et on a beaucoup de mal à le faire pour une raison, la raison dont on vient de parler tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque année, on annonce un déficit public conforme aux engagements qu'on a pris à Bruxelles, mais qui ne tient pas compte en réalité de toutes les dépenses qu'on a promises. Et donc le résultat, c'est ce qui va être malheureusement ce qu'il va devoir faire dès 2017, c'est-à-dire d'expliquer à ses ministres que c'est dommage, mais sur le budget de la défense, sur le budget, etc., il y avait tel crédit dans le budget de 2017, c'est dommage, mais vous ne pouvez pas les dépenser.
La hausse des fonctionnaires, est-ce qu'elle pourrait être mise en cause ou pas?
La hausse du point, elle a déjà eu lieu en février, donc ça y est, c'est fini.
Ah oui,
ça.
C'est vrai.
En revanche, il y a quelque chose sur lequel il pourrait jouer. C'est dans le budget 2017, il y a beaucoup de mesures catégorielles. Ah. C'est-à-dire qu'on a promis beaucoup de catégories de fonctionnaires des primes particulières. Je ne suis pas sûr. Enfin, il y a un mécanisme qui fait que pour que ça soit mis en œuvre, il faut un feu vert de la direction du budget et la direction de la fonction publique.
Il y aura peut-être pas.
J'ose espérer que certaines de ces mesures n'ont pas encore reçu le feu vert et qu'on pourrait encore les reculer. Ça va pas faire plaisir à tous ceux à qui on les a promis. Voilà. Mais on est dans la souffrance.
Yves Bertoncini à la tête de l'Institut Jacques Delors.
On ramène à la métaphore médicale. Pour l'instant, c'est l'effet placebo Emmanuel Macron sur l'économie. Et c'est vrai qu'il plaît. Il plaît au marché, il plaît aux Français, il plaît à ses partenaires européens. C'est très utile, psychologiquement, l'effet placebo. C'est notamment utile, peut-être, sur la confiance, dont on nous dit qu'elle est haute, la confiance des investisseurs. Ça peut avoir un impact sur la croissance, parce que c'est quand même l'un des enjeux clés, vous l'avez dit, la croissance de la France. Et donc, maintenant, au-delà de l'effet placebo, il va falloir administrer les remèdes, durablement. Et c'est vrai que ça peut faire un tout petit peu mal. Il va falloir une forme de doigté, dans la manière dont ces remèdes seront administrés. D'abord à court terme, s'il s'agit d'endiguer le petit excès budgétaire avec lequel il pourrait d'ailleurs même peut-être s'arranger avec ses partenaires européens s'il
croque. Quand même, d'accord.
Oui, s'il croque. Mais enfin, on peut quand même pas dire
qu'ils ont été durs
avec la France, les partenaires européens. Oui, jusqu'ici, ça fait 10 ans qu'on biaise avec les 3%.
Ah bah ouais, obtenu deux délais de 2 ans, 2013-2015.
Mais encore une fois, pas pour notre bonheur, ça nous a pas arrangé tellement l'état de notre économie.
C'est Marc de Citivo, exactement.
Mais en tout cas, il pourrait dire, écoutez, laissez-moi, vous avez vu, je donne des gages, j'ai engagé des réformes structurelles profondes qui vont finir par porter leurs fruits. Je récupère un budget sur lequel j'ai peu de marge de manœuvre. Je ne veux pas casser justement la dynamique de croissance. J'ai entrepi de rompre avec le franco-scepticisme au fond qui rongeait la France. Sauf que donc il va falloir qu'il dissipe le franco-scepticisme de nos partenaires européens aussi. Et ça, il le fera si, au-delà de ces macro-régulation administrative, effectivement, qu'on peut faire du point de vue comptable.
Des ajustements.
Il maintient son esprit de conquête. Encore une fois, pas l'esprit comptable, l'esprit de conquête. Et sur cette tendance-là, il pourra peut-être apporter à la France davantage de bons résultats économiques, sociaux et donc budgétaires.
Le fondateur des Cahiers Verts de l'économie, Marc de Citivo.
Oui, là nous avons tous, on a presque constamment parlé uniquement du budget de l'État.
Oui.
Mais ce qui connaîtra la dérive la plus importante, c'est le budget social. Et vous savez, nous ne sommes pas, c'est pas parce que c'est une exception française. Si vous regardez un pays comme les États-Unis, on ne se rend pas compte, parce qu'on ne le sait pas, que la moitié du budget américain est en fin de compte, ce sont les dépenses sociales, Medicare, Medicaid, et ce qu'on appelle la Social Security, qui est la retraite des fonctionnaires. Ceci augmente à un rythme moyen de 6% par an depuis des années et des années et des années, ce qui les oblige d'ailleurs à faire des coupes budgétaires très très importantes dans les autres domaines. Ça, c'est un problème majeur, si vous voulez. Et c'est vrai que ça veut dire qu'il faut s'attaquer à trois éléments. Le chômage. Est-ce que nous avons pour l'instant des mesures annoncées par le président Macron qui permettraient de penser qu'on pourra réduire les dépenses sur le chômage? Pour l'instant, pas tellement, puisqu'il dit qu'en fait, on pourrait avoir de nouveaux chômeurs qui seraient indemnisés. Donc, alors, il reste la santé, je n'ai pas vu grand-chose. Et il reste les retraites. Alors évidemment, la réforme de retraite au point aura peut-être un effet. Mais
juste,
si vous voulez...
Juste pour rebondir sur le chômage, Marc de Citivo, et ça c'est vrai que c'est une zone de flou qui a été pointée par de nombreux think tanks dans le chiffrage d'Emmanuel Macron. Il a prévu dans ses 60 milliards d'économies sur le quinquennat d'économiser 10 milliards d'euros sur l'assurance chômage. Comment il est arrivé à ce chiffre des 10 milliards? En partant du principe qu'il allait ramener durant son quinquennat le nombre de chômeurs de 10% à 7%. Et donc moins de chômeurs,
c'était
moins d'indemnités,
sacré
et, donc,
pari,
et
sacré
plus d'économies. Mais le pari est assez risqué. Si jamais le pari n'est pas tenu, alors là, il va y avoir un imprévu budgétaire qui sera assez costaud à gérer.
Zone de flou, donc c'est ce que vous dites. Marc de Citivo et Véronique Jean. Allez-y, Marc.
Dont on en dit un mot, mais dont on ne se rend pas compte quand même, surtout à partir du moment où vous regardez ces 5 ans à venir. Bon, on l'a dit, on est à peu près, à quelques centimes près, à 100% du PIB en termes de dette. Bon, alors il faut bien comprendre que si la charge de la dette augmente de 1 point, ça veut dire 1% de déficit budgétaire. Bon, alors ça arrive pas d'un seul coup, parce que évidemment, comme vous avez l'étalage des emprunts, ce n'est pas... Mais au bout de 5 ans, vous pouvez l'avoir. C'est-à-dire, si les taux commencent à monter, dans 5 ans, c'est vrai que la totalité de votre dette a à peu près subi la hausse de la dette. Si jamais on a une dette qui, dans 5 ans, si les taux d'intérêt à l'Europe ne sont que de 1%, on sera content. Mais ça coûtera quand même, grosso modo, un point de déficit budgétaire en plus. Donc, parmi les nombreux problèmes que nous avons entre autres celui-là. Vous avez quand même des bombes atomiques qui sont cachées à l'heure actuelle. Et elles ne sont pas montrées. Saint Macron va nous guérir de tout ça.
Véronique, Jérôme, justement, j'en reviens là, il va devoir payer finalement les erreurs, les promesses.
Les cadeaux de François Hollande, son départ, il va falloir les assumer. Mais là, pour l'instant, il a une fenêtre de tir, il y a un état de grâce. Alors, l'état de grâce, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les satisfaits sont supérieurs aux mécontents de façon continue. Donc, pour l'instant, alors, selon les instituts de sondage, parce que chez Elabe, il est à 45 de satisfaits, 45 de mécontents, donc là, c'est du statu quo, on pourrait dire supérieur ou égal. Donc, pour l'instant, on est, et dans d'autres instituts, l'IFOP, je crois qu'il est à 62%. C'est ce que finalement, grosso modo, les présidents qui arrivent en fonction. Donc c'est cette période, c'est une fenêtre de tir de plus en plus étroite. Aujourd'hui, l'état de grâce, c'est la période pendant laquelle le président doit mettre en place ses réformes. C'est maintenant, c'est pas demain. Et c'est pas ce qu'a fait Hollande en disant j'annonce des réformes, je fais le contraire, et après je redonne une formulation différente de ce que j'avais prévu. Là, il a une chance formidable, mais très courte, c'est de mettre en place ce qu'il a annoncé. De le faire avec, finalement, le soutien politique que lui donne l'état de grâce, parce que finalement, tant qu'il y a des satisfaits, ça signifie qu'il accumule de la crédibilité, et la crédibilité, on la stocke, et quand après on avance dans les réformes, on déstocke cette crédibilité, parce qu'on a de plus en plus de mécontents, de moins en moins de satisfaits. Donc on déstocke la crédibilité, mais on a encore les moyens de faire avancer. Et si ça se passe bien, si les réformes sont mises en place, si elles sont crédibles, si je suis populaire, ou peut-être un peu moins, mais que certains me donnent un soutien, s'il y a un soutien par certaines catégories, par des intérêts catégoriels, eh bien je peux mettre en place des réformes, elles peuvent devenir efficaces, elles seront visibles, l'efficacité donne la crédibilité, le résultat, et c'est ce qu'attendent les électeurs. Il ne suffit pas d'envoyer des objectifs, il faut les réaliser, ces objectifs. Ce que n'a pas su faire François Hollande, c'est d'avoir du résultat suffisamment. On ne les décrète pas, mais on peut décréter tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre et au bon fonctionnement de la mesure.
Donc,
des mesures.
Impossible de ne rien faire, hein, François Hecal. Donc, il faut qu'il monte, qu'il fait des réformes, qu'il fait des efforts.
Alors, je voudrais revenir quand même sur le bilan de Hollande pour le redorer un petit peu.
Ah, bah, si
non, mais je n'ai pas noir. On a quand même fait un des efforts de réduction, même des dépenses. En particulier, je pense à une mesure qui a été beaucoup décriée par l'opposition, mais qui a été très efficace, c'est la baisse des dotations aux collectivités locales.
Oui.
L'année dernière, en 2016, pour la première fois de l'histoire, les dépenses de fonctionnement, hein, pas d'investissement, parce que les dépenses d'investissement, elles ont chuté, mais les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont baissé en euros. Et les effectifs de la fonction publique territoriale ont baissé, ce qui ne s'était jamais vu. Donc cette mesure a eu une certaine efficacité. Il faut continuer. Dans les 60 milliards d'économies de Macron, il y a une dizaine de milliards qui sont prévus sur les dépenses des collectivités locales. Il faut les faire. Mais pour moi, pour les faire, ça signifie continuer à mettre la pression sur les collectivités locales par des mesures comme la baisse des dotations. Donc ça, il faut continuer à le faire.
Alors, vous avez redoré un tout petit peu le bilan de François Hollande. La suite, pour terminer tous ensemble, justement, impossible de rien faire de la part d'Emmanuel Macron. Il doit agir.
Voilà. Il y a une mesure sur laquelle il va falloir qu'il se prononce très vite, voilà, dont on a parlé, c'est la transformation du CICE en allègement de charges. Parce que ça, on n'est plus à 3-1, 3-2 ou en 2018. Si on le fait, on prend 25 milliards d'euros de déficit en plus en 2018. Parce que si vous faites cette mesure, vous allez devoir payer en 2018 un crédit d'impôt sur les salaires de 2017 et payer en même temps l'allègement, la baisse des cotisations sociales sur 2017.
L'année suivante.
Donc cette mesure-là, il va falloir prendre une décision très vite pour savoir si on l'a fait ou si on ne l'a fait pas.
Bon, Yves Bertoncini, d'un mot, qu'est-ce que l'Europe est prête à accepter, franchement, là, dans le contexte que l'on connaît, contexte de victoire d'Emmanuel Macron, contexte de victoire probablement aux élections législatives dimanche, de ses engagements.
Mais qu'il continue à incarner l'esprit de conquête. Vous voyez, quand vous dites, vous vous rendez compte, c'est incroyable, il a misé sur 7% de chômeurs. Et nous tous, incrédules, on se dit, mais non, on n'y arrivera jamais. Mais il y a plein de pays d'Europe qui sont arrivés à descendre leur chômage à 7, à 6, à 5 même. Et d'ailleurs, quand la France respectait ses engagements budgétaires à 3%, c'était la période 97-2002, en gros, le chômage était bien plus bas qu'aujourd'hui. L'Europe attend simplement que la France soit à la hauteur de son potentiel économique, technologique, social, qui est très très grand, et qu'on arrête le gâchis qui nous a quand même beaucoup coûté à nous d'abord depuis une décennie environ.
Et sera-t-il à la hauteur, Marc de Citivo, Véronique Jérôme, et on termine.
Écoutez, je crois qu'il a été dit tout à l'heure quelque chose de fondamental. C'est vrai qu'il n'y a aucune espérance en dehors d'un certain taux de croissance. Bien. Et c'est vrai que, si je prends d'autres candidats, mais Macron s'est mis dans les mêmes lignes, c'est de se dire quand même que si on était vraiment crédible sur un certain nombre de réformes, peut-être qu'à ce moment-là, l'Allemagne pourrait desserrer un petit peu et faire elle-même un léger effort. C'est vrai, chacun le sait, que Fillon avait négocié ça avec Mme Merkel. Alors, l'ennui, c'est que Macron, avec un programme beaucoup moins dur, est moins crédible. Et ça veut dire, Fillon, il dit, écoutez, vous avez vu ce que je vais faire, puis ça va saigner. Donc, il dit, bon, ok, si vraiment vous le commencez comme ça, nous, on va vous aider. Macron est moins crédible, parce que son effort est beaucoup moins grand. Mais, dirais-je, on peut peut-être espérer qu'il gagne de la crédibilité et un petit effort allemand.
Mathieu Jolivet, et le mot de la fin, Véronique Jérôme.
Il y a une fenêtre de tir formidable qui vient de s'ouvrir en ce moment en France. Si jamais Emmanuel Macron arrive à en tirer profit, vous verrez que si ça se trouve, on reparlera des finances publiques au mois de décembre et on se rendra compte que, un, il aura bien réussi à demander les 4 ou 5 milliards d'économies à tous les ministères et que, deux, profitant d'une conjoncture bien meilleure que prévu, les déficits seront réduits plus que prévu.
Véronique
c'est
Jérôme.
Possible,
je voudrais juste vous citer cette phrase de Thomas Jefferson. J'aime mon pays, mais je crains mon gouvernement. Il faut juste être attentif à ça. C'est qu'il y a une crédibilité, un soutien politique, mais il se mérite. Donc là, il faut être attentif aux électeurs qui ne sont plus vraiment myopes aujourd'hui.
Très bien. Merci à tous. On reparlera évidemment, donc, cette présidence Macron qui ne fait que démarrer et la situation budgétaire du pays. Merci François Eckhall à la tête de son site d'information financière Fipeco. Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors, Marc de Citivo avec nous également, le fondateur des Cahiers Verts de l'économie, Véronique Jérôme à la tête de Electionscope, et puis Mathieu Jolivet, que vous retrouvez dans les journaux de BFM Business avec ses explications, ses reportages. Merci à tous. C'est fini pour les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.